le dimanche sur France Inter.
L'œil du tigre.
18h, Philippe Collin.
C'est un regard sur l'histoire du sport.
Ce regard-là, l'œil du tigre, mec.
Connaissez-vous le miroir du football? Le nom de ce journal ne vous dit sans doute pas grand-chose, et pourtant il a profondément marqué les années 70. Le miroir du football fut le repère des esthètes et des romantiques, un journal à part dans l'histoire de la presse sportive.
L'œil du tigre.
A tout à l'heure sur France Inter, 18h10.
Isabelle Autissier du WWF France nous parle.
La crise sanitaire nous rappelle à quel point la protection de la nature est un enjeu majeur pour la santé et pour l'avenir. C'est ensemble que nous pouvons changer les choses. Nous, au WWF, en agissant sur le terrain, et vous, en nous soutenant financièrement.
Parce qu'on ne peut pas vivre en bonne santé sur une planète malade. Choisissez d'inscrire le WWF sur votre testament. Renseignez-vous auprès de Camille Perrier au 01 73 60 40 40 ou sur testament.wwf.fr.
France Inter aime
Nomadland de Chloé Zhao. 3 Oscars, meilleur film, meilleure réalisatrice et meilleure actrice pour Frances McDormand.
My mom said that you're homeless. Is that true?
No, I'm not homeless. I'm just houseless. Don't worry about me, I'm okay.
En pleine crise économique aux États-Unis, Fern décide de prendre la route à bord d'un van et de vivre une vie de nomade. Chloé Zhao filme magnifiquement ce voyage qui célèbre la dignité, la solidarité et la liberté. Nomadland, le 9 juin au cinéma, un film France Inter.
17h passées de 4 minutes sur France Inter, tout de suite Barbatruc avec Dorothée Barba.
Merci beaucoup Claire Flochel, vous serez de retour à 18h pour le journal.
C'est un garçon, ils ont hébergé un pirate, il va finir par mourir. Il va voir un médecin et il va dire bah il m'a donné ça, il lui a donné une carte au trésor.
Il y a des années, en pirate, il a enterré son trésor dans une île. Et après, il découvre la carte pour aller à l'île.
Avec le médecin, ils vont essayer de chercher le meilleur capitaine, le meilleur marin. Ils montent sur un bateau.
Les pirates, je crois qu'ils font semblant d'être des marins parce qu'ils veulent le trésor.
Il faisait peur un petit peu, tu vois. Il avait une jambe à bois. Il picole, il fume. Après, sur le bateau, et bah, ils ont pris la carte.
Et ils partent jusqu'à l'île du trésor où il rencontre Ben Gunn.
En fait, c'est l'aventure et l'action, surtout avec les épées et les bateaux.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Les enfants très jeunes ont parfois du mal à découper les mots. Ils ne savent pas où est le début, où est la fin du mot, et ça donne des formulations géniales. Un jour, une petite fille m'a ainsi expliqué que prendre le bus pour elle, c'était une grande aventure. Eh ouais, c'est l'aventure, mais en grand format. Il est très beau, ce mot inventé. On appelle ça un barbarisme. Autant vous dire que ça a toute sa place dans Barbatruc. Moi, j'adore venture parce qu'on y entend le vent qui décoiffe et qui gonfle les voiles. Et c'est justement le programme cette semaine. Je vous emmène à l'aventure sur un bateau à voile avec des pirates. L'île au trésor de Robert Louis Stevenson. Voilà notre sujet de la semaine. Un roman d'aventure, que dis-je, le grand roman de l'aventure. Émission spéciale à la Villette, à Paris, nous sommes au festival Mot pour Mot, à l'abordage de ce nouveau et réjouissant rendez-vous littéraire. C'est une immense aventure. Soyez les bienvenus, on se raconte des histoires.
Barbatruc.
Dorothée Barba.
Sur France Inter.
Nous sommes dans le studio de France Inter à la grande halle de la Villette à Paris. C'est le festival Mot pour Mot et il y a du public pour de vrai. Bonjour. J'avoue que ça fait de l'effet. Ça fait de l'effet. Bonjour à vous, Dany Laferrière.
Non, je trouve que le public, il y va un peu trop. Ça devient suspect.
Alors la jauge est réduite, évidemment, au vu des conditions sanitaires, mais on est quand même très émus d'avoir du vrai public devant nous, pas vrai ?
C'est vrai.
Merci beaucoup, Dany Laferrière, d'être avec nous. Monsieur le Président, hein, président du jury du prix du Livre Inter, vous dévoilerez demain matin, lundi, le nom du lauréat ou de la lauréate du prix du Livre Inter 2021. Vous avez hâte ?
Oui. Mmh. Je ne sais pas comment ils vont dormir.
Hein. Ça, j'imagine, ouais.
Moi, c'est le cœur, en fait, parce qu'on est toujours heureux de dire que quelqu'un a à gagner.
À gagner un prix. Puis c'est quelque chose, le prix du livre inter. Hein.
Oui, ça émoustille le lecteur et ça gonfle le lectorat.
Romancier, membre de l'Académie française, vous écrivez pour les adultes et pour les enfants. Daniel Laferrière, votre dernier ouvrage paru chez Grasset est un roman dessiné. L'exil vaut le voyage. Magnifique objet avec un escargot bariolé et labyrinthique en couverture. Vous m'en voulez pas si je dis que c'est un dessin d'enfant un peu, Daniel Laferrière?
Oh, je ne m'attendais pas à un tel compliment. Quand on pense que Picasso ou Cocteau a dit « j'ai mis toute ma vie pour pouvoir dessiner comme un enfant », c'est difficile d'être un enfant.
Et c'est le lecteur, tout autant que l'écrivain, qu'on invite aujourd'hui dans Barbatruc, parce que vous êtes un grand lecteur de Stevenson. Quelle relation avez-vous avec L'île au trésor, Daniel Laferrière? Est-ce un livre ami?
Ah oui, sûrement. Bon, déjà le titre, L'île au trésor, ça fait rêver, et il y a toutes les pierreries du monde. Et d'autant, l'île ami, que c'est le bateau, c'est l'Hispaniola, l'île, ça doit être l'île de la Tortue, qui se trouve en Haïti.
L'Hispaniola, c'est l'ancien nom?
Oui, c'est l'ancien nom de toute l'île. Et l'île où les pirates allaient à cette époque-là, c'est l'île de la Tortue, que j'ai visitée plusieurs fois, et qui est d'un accès difficile parce que il y a un énorme récif qui est fait comme une table, qu'on appelle la table du diable. Alors les galions espagnols qui étaient faits de telle manière ne pouvaient pas traverser. Et vous pouvez presque au milieu de l'océan vous mettre debout et sans avoir l'eau parce que le récif est très haut. Et il faut avoir la coque un peu plate pour pouvoir... Et les pirates pouvaient facilement contourner et traverser.
Ils connaissaient les chemins secrets.
Les chemins secrets.
C'est chez vous, l'île au trésor?
Oui,
de
tout
Stevenson.
À fait. L'île de la Tortue, oui.
Ma deuxième invitée, c'est la Dame des Odyssées. Bonjour, Laure Grand-Besançon.
Bonjour.
Bienvenue, la Dame des Odyssées. C'est comme ça que les enfants vous connaissent, bien sûr. Vous êtes l'autrice et la voix de ce podcast France Inter qui raconte des histoires vraies. 13 millions d'écoutes, déjà, ça fait pas mal. Vous passez du son au papier puisque les Odyssées deviennent un livre coédité par Les Arènes et France Inter. C'est aussi un livre d'aventure, Laure Grand-Besançon.
C'est un livre, c'est 12 récits. En fait, c'est l'histoire racontée sous forme de récits d'aventure. Donc, 12 aventures qui nous amènent un peu partout.
L'aventure est-elle le moteur des Odyssées? Est-ce que c'est le goût de l'aventure qui vous donne envie de raconter l'histoire de Marco Polo ou d'Aliénor d'Aquitaine?
Eh ben, complètement. Mmh. Complètement l'aventure, parce que c'est des récits. Moi, je suis née dans des récits d'aventure qu'on m'a racontés. Et j'ai compris, peut-être un an après avoir lancé les Odyssées, qu'en fait, je pouvais pas faire autrement que écrire des récits d'aventure.
Écrit.
Parce que c'était vraiment dans mon ADN, que c'est ce qu'on m'avait transmis dès mon enfance. Et du coup, un jour, c'est sorti, quoi.
Et aujourd'hui, vous allez nous faire la lecture. On a de la chance, Laure Grand-Besançon. Vous allez nous lire au fil de l'émission quelques extraits de L'île au trésor, roman paru en 1883, à la fin du 19e siècle. Son auteur, Robert Louis Stevenson, est un écrivain écossais. Quel souvenir d'enfance avez-vous de L'île au trésor, Laure Grand-Besançon?
C'est un souvenir, mais terrible. Vraiment terrible, parce que j'étais... c'est un souvenir de primaire. Moi, j'étais vraiment, vraiment très, très mauvaise en orthographe. Hein. J'ai passé mon primaire à copier sur mes camarades, et encore, j'avais péniblement des 2 ou des 3 sur 10. Et un jour, en dictée, on a eu un extrait de L'île au trésor. Catastrophe. Je me souviens vraiment très bien du moment de la dictée, et donc j'écris le titre, L'île au trésor, et je me dis, Laure, bon... Il y a un trésor ou plusieurs trésors sur cette île?
13.
Eh ben,
il triche, Daniel Laferrière.
Ah, je ne savais pas. Je suis comme elle, je fais des fautes.
Et ben voilà, on fait des fautes. Et du coup, j'écris l'île au trésor au pluriel.
Au pluriel, erreur fatale.
Erreur fatale, je reviens à ma copie, 0 sur 10, c'était au singulier. Et je me dis, mais comment c'est... Et du coup, je me suis un peu fâchée avec l'orthographe. Je me dis, mais c'est pas logique, parce qu'on ne sait pas s'il y a un ou plusieurs trésors sur cette île.
Je trouve que le prof ou la prof était un peu rabat-joie sur ce
coup-là,
Daniel Laferrière.
Non, mais il fallait corriger le titre. C'est trésor au pluriel.
Vous aimeriez qu'on corrige vos titres aussi, j'imagine.
Mais il y a des mots comme ça qu'on rate toute sa vie. Par exemple, j'ai toujours mis de S dans parmi. Pour moi, parmi, je suppose, un choix. Et j'ai enlevé le S de toujours. Parce que toujours me semble assez suspendu. On ne peut rien faire avec toujours. Hein. Je t'aimerais toujours. Bon, j'en veux pas.
On va plonger dans ce texte à présent. Le narrateur de L'île au trésor est un enfant. Il s'appelle Jim Hawkins. Ses parents tiennent une auberge qu'on imagine évidemment perdue dans la brume écossaise. Et un jour, un marin au visage balafré s'installe dans cette auberge. C'est Billy Bones, le capitaine Bill. Il n'est pas franchement rassurant.
Ces histoires étaient pourtant ce qui effrayait le plus les gens. Des histoires affreuses. Il était question de pendaisons, de captifs qui devaient marcher sur la planche, des îles tortugas, d'embuscades féroces sur la route des galions espagnols. à l'entendre, il avait partagé la vie de certains des pires gredins que Dieu ait laissé sillonner les mers. Mon père disait toujours qu'il ruinerait l'auberge, car les gens cesseraient bientôt d'y venir si c'était pour être tyrannisés et terrorisés. Je crois au contraire que sa présence était bonne pour nos affaires. Les gens tremblaient sur le moment, mais en y repensant, ensuite, ils ressentaient un certain plaisir. C'était une distraction piquante dans une vie paisible à la campagne. Pendant tout le temps qu'il a vécu chez nous, le capitaine n'a jamais changé de tenue, si ce n'est qu'il achetait parfois des bas à un colporteur. Je me souviens de son habit, qu'il réparait lui-même dans sa chambre et qui, avant la fin, ne comportait pas un pouce carré qui ne fût rapiécé. Il n'écrivait ni ne recevait aucune lettre, ne conversait qu'avec les voisins et avec eux, dans la plupart des cas, seulement quand il était ivre. Quant à sa grande malle de marin, personne parmi nous ne l'avait jamais vue ouverte.
Et c'est par cet homme un peu effrayant que va s'immiscer l'aventure dans le roman. Alors on a choisi de varier les traductions. Hein. Celle-ci, c'était un extrait de la traduction la plus récente de Jean-Jacques Greff aux éditions Tristram, L'île au trésor. Alors le petit Jim, à la mort de ce capitaine Bill, va trouver une carte au trésor dans la malle du marin balafré. On va y revenir. L'une des particularités de ce roman, Dany Laferrière, c'est que la peur est très présente, hein, on vient de l'entendre. Jim insiste très souvent sur sa frayeur, mais nous sommes comme les clients de l'auberge, hein, finalement. On a peur, mais on est un peu excités par cette peur. On aime avoir peur.
L'ambiance ouais. est magnifique. Et d'ailleurs, le capitaine le dit bien. Est-ce que vous avez beaucoup de clients? Et non. C'est presque pitié. Ah, ça me va. Et ça me va. Il y a des fois.
C'est ce qu'il dit
problèmes.
En arrivant, ouais.
Oui, parce que l'auberge est placée un peu en colline, un peu sur la grève. C'est comme un phare, on dirait. Et on a la paix. Si on est capitaine pirate, on n'a pas envie d'avoir du public autour de soi. Donc déjà, c'est accueillant, cette auberge.
La lecture peut-elle servir à apprivoiser la peur, Dany Laferrière, ou à la conjurer?
Non, à vivre la peur, à vivre la peur.
C'est donc l'apprivoiser, la vivre, l'expérimenter.
Non, pas l'apprivoiser, je veux avoir peur toujours, je veux pas, à un moment donné, j'ai plus peur, je sais qu'est-ce que c'est. Non, pas du tout. À vivre la peur, c'est un sentiment très fort, très, dans cet âge-là, tout est neuf, et la peur est un des plus forts sentiments.
Vous étiez terrorisé en lisant L'île au trésor, enfant.
Heureux et terrorisé. Heureux et théorisé parce que c'est vrai que l'ambiance est mise rapidement et directement. On est dans une action et les personnages sont tellement bien dessinés, ce capitaine. Et
on l'a vu là, en écoutant l'or, on l'a vu le capitaine.
Mais ma grand-mère, pour me calmer, le présentait comme un pauvre bonhomme un peu fatigué, qui n'a personne, qui n'a pas de maman pour lui rapiécer ses habits et qui passe son temps à boire parce qu'il est un peu désespéré, perdu. Et on peut le présenter comme ça aussi. Et on a tous connu des gens qui sont rébarbatifs à première vue et qui se révèlent tout mignons, quoi. Et le capitaine, on peut pas dire tout mignon, mais...
tellement tout mignon. C'est votre grand-mère qui vous racontait cette histoire?
Non, on lisait, je lisais à ma grand-mère et ces histoires-là. Elle se mettait sur la galerie avec sa cafetière et remplie de café à ras-bord. Et puis moi...
L'odeur du café qui a donné un magnifique roman.
Absolument. Mmh. Et je lisais et elle commentait. Et son regard était toujours bienveillant. Il n'y a pas de bandit pour ma grand-mère.
Laure Grand Besançon, s'agit-il d'apprivoiser la peur pour vous?
Apprivoiser, plutôt la vivre aussi, parce que c'est un plaisir. Enfin, évidemment, quand on la vit dans la vie, c'est terrible. Mais quand c'est à travers des objets comme ça, artistiques, c'est un plaisir fou parce qu'on sait qu'on est en sécurité et du coup, on peut comme ça vivre les tempêtes et frissonner et se dire oh mon Dieu la bourrasque. Mais en fait, tout va bien parce qu'on est sous sa couette. Enfin, c'est ce genre de plaisir comme ça, de frissons. Il faut les vivre au contraire. Quoi. On adore ça.
Oui, la seule peur que je connaisse qui soit terrible, c'est la peur de l'ennui.
La peur de l'ennui, oui.
Ça, il est immobile, il bouge pas, on le pousse, on lui donne des coups de pied, on lui dit va-t'en, il s'installe. Un dimanche après-midi, il pleut.
Oui, mais l'ennui, ça aide aussi à développer l'imaginaire. Un enfant qui s'ennuie va faire galoper son imagination.
Oui, le psychologue le dit. Mais quand on est au cœur de l'ennui...
Il paraît qu'il faut répondre à un enfant qui s'ennuie, mais tu as de la chance.
Oui, plus tard, vous verrez, c'est avec cet ennui-là que vous allez... Enfin, c'est comme déposer l'ennui à la banque et espérer s'attirer des trésors.
Ça rapporte gros, c'est bien connu. Alors la figure du pirate, elle est centrale évidemment dans ce roman L'île au trésor. Notre reporter Caroline Pommès a demandé à des enfants de causer piraterie. Elle a promené son micro à Chamonix, en Haute-Savoie. On n'est pas franchement chez les corsaires, hein, mais l'imaginaire des pirates fonctionne tout de même à plein.
Bah, un pirate, c'est un membre d'un équipage qui est sur la mer et qui va aller accoster d'autres bateaux pour essayer de voler ce qui est la marchandise du bateau, etc.
Bah ouais, c'est comme, c'est un guerrier, mais bah, sur l'eau, en fait.
C'est un méchant qui veut attraper et qui veut trouver un trésor.
Il débarque sur toutes les îles et sur tous les bateaux pour trouver des trésors.
Ah, c'est des gens qui veulent que de l'argent.
Et du coup, ils sont prêts à tout pour l'argent.
Bah moi j'ai un peu la même image, je dirais, qui a perdu un œil ou une jambe et il a les habits en lambeaux.
Il a des épées, un perroquet, un gros navire.
Il a un chapeau avec une tête de mort dessus.
Il a un gros sabre. Des fois il a ouais, un cache-œil. Il a un pantalon large, une ceinture. Il a une carte au trésor souvent et il a un bateau.
Et les jambes en moins, du coup il est handicapé.
Il a une jambe, à la place de la jambe, il a un bâton.
Puis une voix cassée, et ça parle énervé, genre.
Comme s'il était ivre.
Il a une voix un peu grave et il boit plein d'alcool et tout ça.
Bah, il parle beaucoup en langage familier.
À l'abordage.
Ça y est. Bah, c'est vrai qu'ils n'ont pas tellement de douche dans le bateau, alors ils ne doivent pas souvent se doucher. Et oui, des fois, les pirates, ils ne sont pas très très beaux. Ça ne fait pas forcément peur, mais... C'est vrai que c'est moins beau qu'une princesse ou des trucs comme ça, quoi. C'est plus comme l'armée, ouais. C'est, ils doivent, bah, il y a le capitaine en haut, tu sais, il y a les petits matelots qui sont en bas, il y a le grand capitaine qui dirige tout le bateau et des trucs comme ça, je pense. C'est des histoires de deux bateaux, qu'un il va attaquer l'autre, comme dans Astérix Obélix.
La barbe blanche, barbe noire.
Moi je connais Pirates des Caraïbes.
Il y a Jack Sparrow, il y a Capitaine, je sais plus quoi.
Alors c'est encore un peu compliqué parce que c'est quand même des voleurs qui vont aller voler quand même les autres bateaux et tout, mais il me semble qu'ils ont quand même un code d'honneur à suivre et que si on le suit pas, bah je donne pas cher de leur peau, quoi.
15 marins se battent du bord, y'a là-haut une bouteille de rhum, à boire et diable et régler leur sort.
15 marins, c'est la chanson originale hein, du roman de Stevenson, L'île au trésor, celle que chante le vieux marin de l'auberge, Dany Laferrière. Que pensez-vous de la vision des pirates par les enfants qu'on vient d'entendre?
Tout à fait juste, surtout celle qui a dit c'est un méchant, parce qu'il ne faut pas oublier quand même et sa vie sur l'eau. J'ai pas compris pourquoi ils font jamais des petits plongeons dans la mer, c'est quand même hein, pour se décrasser.
Peut-être qu'ils ne savent pas nager.
C'est vrai, c'est beaucoup. Il y a beaucoup de marins qui ne savent pas nager, oui, oui.
La question de la moralité, on l'entendait à l'instant, se pose évidemment, sont-ils méchants ou gentils les pirates? Un enfant vient d'évoquer un code de la piraterie et on trouve justement ce code dans votre livre, Les Odyssées, leur grand Besançon. Vous l'avez retrouvé?
Ouais, une chasse partie qui était à bord du Royal Fortune, je crois, le bateau d'un grand pirate anglais qui s'appelait Bartholomew, je sais pas si on dit comme ça, ou Bartholomew, Roberts. Et du coup, on a coupé un peu dedans, mais parce qu'il y a plusieurs règles. Et moi, ce que j'ai trouvé assez vraiment intéressant, c'est que bon, bien sûr, il y a les règles de moralité aussi, comme voilà, on peut pas boire le dimanche, ou alors à partir de 22h, plus le bruit sur le bateau. Enfin, des trucs assez surprenants.
Couvre-feu, quoi.
Et les musiciens, on éteint les bougies. Vous pouvez continuer à, je paraphrase, hein, bien sûr, à faire un peu du grabuge, mais on éteint les bougies, voilà. Et surtout, ce que j'ai trouvé hyper chouette, c'est une sorte de solidarité aussi entre les pirates. C'est-à-dire que il est écrit, l'une de ces règles, c'est personne ne quitte l'aventure tant que tous n'ont pas fait fortune. Et ça, je trouve ça vraiment... Parce que du coup, voilà, ils sont liés les uns aux autres, et voilà, ensemble, et tant qu'on n'a pas gagné tout l'argent qu'on voulait, personne ne quitte le navire.
C'est juste une manière de ne jamais quitter l'aventure.
C'est juste, voilà, aussi de jamais quitter l'aventure.
Allez, on va déplier la carte au trésor de Jim dans un instant. Voici d'abord Curtis Harding sur France Inter. I won't settle for less. I'm convinced, and once I'm convinced, then I manifest. A catalog of parables is broke down in a tongue that's been corrupting, no substance to be hidden from. Now we see roughly, rough forth from a dream, a stream underwater without a hops in the scene. Not the pacifier, but homie, the truly changed. When you stare at the heavens, you see the stars rearrange. So be wow.
the middle of a monotonous storm, made from mess to music motivated. I'm on melodic melody that moves and mediates evolution of change that pulsate. The mind state is not impossible for our mission to succeed. You ask, are we chosen? I'll say indeed. We studied and trained for a warrior mind frame. The counselors gather thicker than sofas, lie that don't fret, cause it ain't over yet. By the time it is, the crowds are turning to cheers. No fears, just hold on tight, because the dollars will be over by the end of the fight. With doubt and fear, jealousy, all the things that cause casualty, to your soul, let it go. Most of all,
France Inter a posé ses valises dans la grande halle de la Villette à Paris ce week-end. Émission en public depuis le festival Mot pour Mot. Je salue l'équipe technique qui rend cette émission possible. Loïc Duros, Julien Dumont, Alexandre James, Oscar Jouxtel et Nicolas Estorge. Et nous parlons de l'île au trésor. Mes invités sont Dany Laferrière, écrivain, président du prix du livre Inter 2021. Et membre de l'Académie française.
Surtout lecteur.
Surtout lecteur. D'ailleurs, on rappelle que le prix du livre Inter sera décerné demain dans la matinale d'Inter. Laure Grand-Besançon est aussi avec nous, autrice d'un livre sur les grandes aventures de l'histoire racontées aux enfants, Les Odyssées, déclinaison en livre d'un podcast France Inter. Et nous parlons d'aventure.
France Inter.
Capitaine, nous avons un cap. C'est pas trop tôt.
Barrez à lever l'ancre, larguez les amarres, portez-moi ces voiles.
Barbatruc.
L'île au trésor, grand roman de Robert Louis Stevenson. On va en lire un autre extrait, Laure Grand-Besançon. Le petit Jim, le narrateur de cette histoire, nous le disions, a fait la connaissance d'un vieux loup de mer dans l'auberge de ses parents. Ce dernier meurt. Jim et sa mère trouvent la clé du coffre qu'il gardait dans sa chambre. Et dans ce coffre, un mystérieux papier.
Le papier avait été scellé en divers endroits avec un dé en guise de cachet. Le dé même, trouvé par moi, dans la poche du capitaine. Le docteur brisa avec précaution les sceaux de l'enveloppe et il s'en échappa la carte du Nil, où figuraient latitude et longitude, profondeur, nom des montagnes, baies et passes, bref, tous les détails nécessaires à un navigateur pour trouver sur ses côtes un mouillage sûr. D'environ 9000 de long, sur 5 de large, et figurant à peu près un lourd dragon dressé, elle offrait deux havres bien abrités et vers son centre, un mont dénommé La Longue Vue. Il y avait quelques annotations d'une date postérieure, en particulier trois croix à l'encre rouge, dont deux sur la partie nord de l'île et une au sud-ouest, plus, à côté de cette dernière, de la même encre rouge et d'une petite écriture soignée, ces mots « Ici, le principal du trésor ».
C'est un extrait de l'édition Flammarion Jeunesse, la traduction ancienne de l'île au trésor. Une île en forme de dragon, Dany Laferrière, sur laquelle on trouve une montagne qui s'appelle Longue Vue. On la visualise très bien, cette île. Et c'est ça qui frappe dans l'île au trésor. C'est un bouquin plein d'images, même sans illustration.
C'est oral aussi. C'est pour ça que Laure Grand-Besançon y va aussi allègrement. C'est un livre dicté. On imagine que Stevenson raconte ça par des après-midi d'ennui à ses neveux ou à son neveu.
Mais vous ne croyez pas si bien dire, parce que la carte est d'autant plus importante quand on connaît l'histoire de ce roman. C'est un dessin d'enfant qui est à l'origine de l'île au trésor. Stevenson s'est inspiré du dessin de son beau-fils qui s'appelait Samuel. Il avait 13 ans à l'époque. Il avait dessiné une île. L'écrivain écossais s'est amusé à compléter le dessin en y ajoutant des noms de lieux. Et ensuite, seulement, le petit Samuel a demandé à son beau-père de lui écrire cette histoire qui est parue chapitre par chapitre dans une revue jeunesse. C'est donc effectivement d'abord un dessin et ensuite un roman.
Et directement pour un lecteur, oui. Et pour fasciner un lecteur. Donc on prend toutes les techniques et pour faire plus grand que nature. Tout à l'heure, Laure Grand-Besançon, on peut parler de ça, c'est-à-dire elle met des épices, du sel, du piment. Il faut faire traverser la rampe, il faut que l'autre vous regarde complètement fasciné. Et c'est ça qui m'a fasciné quand j'ai lu ce roman pour la première fois. Peut-être que j'avais 9 ans à Petit-Gouave, dans une petite ville d'Haïti, à 60 km de Port-au-Prince, et sous les draps, comme disait Laure Grand-Besançon. Et j'étais là et je n'étais plus là. Je ne savais pas où j'étais, à quel siècle, à quelle époque. J'étais avec les pirates, et j'étais ce jeune garçon Jim. Et c'est extraordinaire, cette capacité de faire traverser le temps, de faire en sorte de participer et en éliminant toutes les contraintes, parce que le monde est fait presque uniquement de contraintes, sauf la lecture. Nous traversons les siècles et nous écoutons des gens qui sont morts depuis très longtemps nous parler. Et ils nous fascinent beaucoup plus que les vivants, puisque ma mère va me dire, arrête de lire, je ne l'écouterai pas. Je ne sais même pas qui elle est d'ailleurs. Je suis avec le capitaine, je suis avec les pirates, et puis cette mortelle ose s'adresser à moi.
Si c'est un trésor littéraire, ce livre, c'est sans doute parce que le narrateur est un enfant, Daniel Laferrière.
Un adolescent.
Ouais. Hein, j'entends mais ça change bien. Tout à la perspective. Oui. On voit le monde par ses yeux. On voit le monde d'en bas.
Oui, on voit le monde. Oui, puis bien sûr, c'est un grand écrivain, Stevenson. Il avait compris que son livre n'aura de sens que s'il, pour le goût total de l'aventure, il faut qu'il y ait adhésion, adéquation totale entre celui qui entreprend l'aventure, la fascination de se déplacer, c'est ça, c'est se mouvoir à une aventure. On peut pas, peut-être, il y en a qui peuvent faire une aventure sans bouger, mais pas cette demoiselle qui a parlé de venture.
Donc, immense
déjà,
venture.
Rentrer, monter dans un autobus, c'est une venture.
C'est déjà donc, l'aventure.
C'est
ouais.
Donc l'aventure, c'est un mouvement.
Certains ou certaines pourraient regretter que ça manque de filles ou de femmes, hein, ce roman L'île au trésor. Vous avez trouvé des pirates, vous, dans les Odyssées,
leurs grands besançons. Il y a eu des femmes, il y a eu des grandes femmes pirates, et j'avais fait donc un podcast sur deux femmes pirates qui s'appelaient Anne Bonny et Mary Read, deux intrépides, jeunes femmes qui étaient parties de chez elles. Une venait d'Irlande, l'autre, je me souviens plus exactement, mais bon, elle voulait partir à l'aventure, elle se retrouve près de l'île de la tortue, voilà, dans ce repère de pirates.
Encore elle. Encore l'île elle. De la tortue.
Mais tout se passe là, effectivement.
C'est le centre du monde.
Et évidemment, comme dans beaucoup de cas d'aventurières de cette époque, pour pouvoir embarquer, elles se font passer pour des hommes.
Elles se déguisent,
voilà, elles se déguisent.
En pirate garçon.
En pirate garçon.
Alors le petit Jim va constituer un équipage avec l'aide d'un adulte pour aller chercher ce trésor. L'adulte, c'est un médecin et ils prennent la mer. Écoutons à nouveau des enfants au micro de Caroline Pomès, des enfants qui s'interrogent sur l'aventure et sur le courage. Et toi, est-ce que tu serais parti? Est-ce que tu aurais pris le large comme Jim, le héros de l'île au trésor?
Ouais, j'aime bien ce genre d'histoire un peu trépidante. On a envie de savoir ce qui va se passer à la fin, ce qui va se dérouler, s'il va trouver le trésor, etc. C'est des histoires assez cool.
Je trouve surtout quand il y a du suspense, enfin c'est super bien parce que ça donne envie de connaître la suite.
Il y a de l'action, il y a des batailles, il y a plein de choses. Du coup, on va dire qu'on s'ennuie pas quand on lit ou regarde ce genre d'histoire.
Forcément, quand on dit qu'il y a un trésor, t'as un peu envie d'aller le chercher, mais enfin ça va pouvoir être une bonne aventure, mais je sais pas si j'oserais partir sur une île chercher un trésor perdu.
Bah il est courageux un peu parce que d'aller avec des grands comme ça que tu connais pas sur un bateau avec les gens totalement ivres.
Bah moi le goût de l'aventure m'aurait peut-être attiré, mais c'est vrai que je me serais posé la question quand même avant d'y aller. Parce que se retrouver avec des pirates en mer, etc., ça peut quand même être un peu dangereux.
Surtout que ça se trouve, les grands, ils ont quoi? Allez, on va dire 36 ans. Et le petit, il a, je sais pas, mais ça se trouve, le petit, il a 13 ans du coup.
Avoir 13 ans et attaquer d'autres pirates que tout le monde se tire dessus, ça doit être horrible pour celui de 13 ans. Il doit avoir peur.
J'aurais quand même un petit peu peur, parfois, que les pirates, ils me jettent à l'eau, par exemple.
Jamais, moi, je pars à 13 ans tout seul, frère. C'est un ouf.
Le petit là, il a du courage parce que à 13 ans, je sais pas s'il y a quelqu'un qui vient nous voir. Eh viens, on va sur un bateau là.
C'est vrai que partir en mer comme ça pour chercher un trésor, on sait même pas s'il existe vraiment. Faut quand même avoir de l'audace et être courageux, je pense.
Je serais allée chercher le trésor toute seule.
Moi, je serais allée avec les pirates. Allez, on va chercher le trésor tous ensemble et après, on va se prendre des bonnes pizzas.
Moi, j'aurais resté sur l'île tranquille à vivre ma vie. J'aurais abandonné dès que j'aurais pas trouvé, en fait. Ce serait hyper bien parce qu'en fait, tu pourrais voyager déjà et faire des voyages que t'aurais jamais fait. Moi, je serais plutôt du côté des pirates méchants. Comme ça, tu trouves plus de trésors et il y a plus d'aventures parce que tu peux débarquer sur les bateaux et tout voler.
Moi, j'aimerais être du côté des pirates. T'es moins du côté des marins gentils qui vont à la pêche chaque matin à 6h du mat. On ferait des checks avec un pirate qui vole des trésors et moi je viendrai avec lui et au moins on sera riche et puis je repartirai et puis je m'achèterai la plus grande maison du monde.
Voilà, pourquoi faudrait-il choisir entre les trésors et les pizzas? Je m'interroge et je retiens qu'à 36 ans, on est très vieux.
Oui,
Daniel
Laferrière. Tout à fait. Mmh. Mais il y en a un qui a trouvé un des secrets de l'écriture. Ah. Je serais du côté des méchants. Mmh. Et ça, c'est fondamental. Ils sont moins ennuyeux. Et c'est eux qui font le récit.
C'est tout l'intérêt justement de ce roman L'île au trésor. La frontière entre le bien et le mal n'est pas très claire. Et d'ailleurs, l'un des personnages très importants, Silver, passe son temps à la franchir, cette frontière. On ne sait jamais s'il est gentil ou s'il est méchant.
Long John Silver, ouais. C'est un très beau portrait de Stevenson qui annonce peut-être aussi Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Et ces personnes aux personnalités un peu complexes. On a l'impression que Stevenson voulait absolument quelqu'un comme cela. Et pour montrer que les méchants peuvent devenir bons, pour rendre son histoire un peu plus souple, un peu plus... Mais j'ai beaucoup aimé les enfants parce que ce sont des micro-autoportraits. On voit bien celui qui va à la pêche le dimanche, on voit bien celui qui va s'acheter une tonne de pizza, on voit bien celui qui veut partir seul et pour avoir le trésor, on voit bien celui qui veut être avec les méchants.
Alors justement, on va faire connaissance avec John Silver, surnommé Cochon Rôti par son équipage. Voilà qui mérite une nouvelle lecture, leur grand Besançon.
À bord, pour avoir les deux mains le plus libres possible, il portait sa béquille, suspendue à une courroie, passée autour du cou. C'était plaisir de le voir calé contre une cloison le pied de cette béquille et arc-bouté dessus, suivant toutes les oscillations du navire, faire sa cuisine comme sur le plancher des vaches. « Ce n'est pas un homme ordinaire, cochon rôti !» me disait le quartier-maître. « Il a reçu de l'instruction dans sa jeunesse, et quand ça lui chante, il parle comme un livre, et d'une bravoure. Un lion n'est rien comparé à Long John !» Je l'ai vu, seul et sans armes, empoigner quatre adversaires et fracasser leurs têtes les unes contre les autres. Tout l'équipage l'aimait, voire lui obéissait. Il avait la manière de leur parler à tous et de rendre service à chacun. Envers moi, il était d'une obligeance inlassable et toujours heureux de m'accueillir dans sa cuisine, qu'il tenait propre comme un sous-neuf, et où l'on voyait des casseroles reluisantes pendues au mur et dans un coin, une cage, avec son perroquet. « Allons, Hawkins !» me disait-il. « Viens faire la causette avec John. Tu es le bienvenu entre tous, mon fils. Assieds-toi pour entendre les nouvelles. Voici capitaine Flint. J'appelle mon perroquet ainsi en souvenir du fameux flibustier. » Voici donc capitaine Flint qui prédit la réussite à notre voyage. Pas vrai, capitaine? Et le perroquet de prononcer avec volubilité « Pièce de huit, pièce de huit, pièce de huit !» Vois-tu, Hawkins, me disait-il, cet oiseau est peut-être âgé de 200 ans. Il a navigué avec England, le pirate. Il a été à Madagascar, au Malabar, à Suriname, à Providence, à Portobello. Il a assisté au repêchage des galions de la Plata. C'est là qu'il a pris « Pièce de huit !» Et rien d'étonnant, il y en avait 350 000, Hawkins. Garde à vous, pareil à virer, glapissait le perroquet.
L'or grand Besançon du podcast Les Odyssées nous fait la lecture aujourd'hui. Quelle chance, L'île au trésor de Stevenson. On est à la Villette, à Paris, au festival littéraire Mot pour Mot. Dany Laferrière, j'aime ce perroquet qui s'appelle Capitaine Flint. Vous aussi, j'en suis sûre.
C'est très élégant, c'est du dandisme. C'est un perroquet qui s'appelle, je me présente, Capitaine Flint.
C'est un hommage à Robinson Crusoe, évidemment.
Oui, mais dans ce livre, il y a plein de livres. Mm-hmm. C'est comme une petite bibliothèque. C'est peut-être un des trésors du livre. Mm. À l'intérieur du livre, on trouve des livres et ça fait plaisir. Et c'est une très vieille technique aussi de glisser. Cervantes l'a fait aussi et c'est toujours un plaisir de lire à l'intérieur d'un livre.
C'est une malle de pirates finalement ce roman. Robinson Crusoe de Daniel Defoe était le livre préféré de Stevenson. Et j'ai appris aussi, Dany Laferrière, que L'île au trésor de Stevenson était le roman préféré de Borges, écrivain argentin que vous aimez beaucoup, je crois. Est-ce que vous croyez à la littérature par contagion ? J'aime le livre préféré de mon écrivain préféré.
Ah mais totalement, il n'y a que ça d'ailleurs. Cette érudition merveilleuse qui symbolise Borges. Et moi je lis pour connaître les écrivains que j'aime et je les connais en lisant plus tard les livres qu'ils ont aimés. Parce que je crois aussi que, au lieu d'écrire un mauvais livre, vaut mieux lire un bon livre.
C'est pas mal ça. Allez, on poursuit la lecture de L'île au trésor dans un instant, toujours au festival Mot pour Mot à la Villette, à Paris.
Barbatruc.
Vous voyez cette île là-bas ? Eh ben, c'est pas une île. C'est un coffre-fort. Et demain, camarades, nous irons l'ouvrir, ce coffre-fort. Et chacun aura sa part, je vous en fiche mon billet.
Sur France Inter.
Cadavre exquis, un revolver dans les journaux. L'homme est cruel, les mots assassinent l'âme criminelle. Je te tiens, tu me tiens,
on laisse
cet idiot comme un duel. Qui
Inter, le choix de Jean-Baptiste Audibert, notre programmateur musical. Cette émission est préparée par Anne-Sophie Dazard, réalisée par David Leprince. Deux invités ici à la Grande Halle de la Villette à Paris, le festival Mot pour Mot, Dany Laferrière de l'Académie française, écrivain pour les enfants et pour les adultes, et Laure Grand-Besançon, la voix du podcast Les Odyssées. C'est elle qui raconte des histoires vraies aux enfants, des histoires pleines d'aventures. Nous rendons hommage à un chef-d'œuvre de la littérature jeunesse aujourd'hui, L'île au trésor de Stevenson. J'aimerais qu'on dise un mot, Dany Laferrière, de l'association Lire et faire lire, dont vous êtes l'un des parrains. Elle fête en ce moment ses 20 ans, avec une très belle exposition photo sur le parvis du Panthéon, à Paris. Ça s'appelle Un peuple de lecteurs. Association qui fait un lien très joli entre les retraités et les enfants, pour transmettre le virus de la lecture. Quiconque a lu vos livres, Dany Laferrière, sait quel est votre lien avec votre grand-mère. Ce lien, vous le connaissiez depuis toujours.
Ah, mais totalement. Mais c'est les deux seuls philosophes qui existent vraiment. Et c'est les petits-enfants et leurs grands-parents, puisque la philosophie, c'est avoir la possibilité de vivre dans un temps réel. Et tout le monde, je me souviens, ma mère était toujours pressée d'aller au travail, de retourner. Et avec ma grand-mère, elle avait autant de temps que moi. Et elle avait tout son temps pour moi. Et donc, quel bonheur, on pouvait philosopher.
L'association Lire et faire lire, en tout cas, le principe est celui-là. Hein. Des retraités vont dans les écoles, dans les associations, pour lire à voix haute des livres aux enfants et leur filer le virus. C'est une très belle idée, elle est toute simple.
Et toute naturelle aussi. C'est, on a envie de lire aux enfants et on a vu qu'ils nous lisent des livres aussi. Parce que les enfants aiment lire aussi, faut pas croire.
Dernier extrait de L'île au trésor, on va faire une grosse ellipse parce qu'il se passe des millions de choses dans ce roman d'aventure, des rebondissements en pagaille, et soudain, Jim et les pirates approchent du but.
Nous avons atteint le premier des grands arbres, mais la boussole a révélé que ce n'était pas le bon. De même pour le deuxième. Le troisième s'est levé à près de 200 pieds dans les airs, au-dessus d'un massif de broussailles. Le tronc rouge de ce géant était aussi large qu'une maisonnette et une compagnie aurait pu manœuvrer dans l'ombre immense de son feuillage. Mais ce n'était pas la taille qui impressionnait mes compagnons. C'était de savoir que 700 000 livres en or étaient enterrés quelque part sous son ombre. À mesure qu'ils s'approchaient, la pensée de l'argent effaçait leur frayeur récente. Leurs yeux flamboyaient, leurs pas devenaient plus légers et plus vifs. Toute leur âme était attachée à cette fortune, à cette vie d'extravagance et de plaisir qui attendait chacun d'entre eux. Nous arrivions à la lisière des broussailles. « Hourra les gars, tous ensemble !» s'était crié Mary, et les premiers se sont mis à courir. Soudain, moins de 10 yards de plus loin, nous les avons vus s'arrêter. Un cri sourd s'est élevé. Silver a avancé deux fois plus vite, creusant la terre du bout de sa béquille comme un possédé. Et l'instant d'après, lui et moi, nous arrêtions net à notre tour. Devant nous s'ouvrait une grande excavation, pas très récente, car ses parois s'étaient éboulées et de l'herbe poussée au fond. Dans l'herbe reposait le manche cassé d'une pioche et les planches éparpillées de plusieurs caisses. J'ai vu sur l'une de ces planches, gravé au fer rouge, le mot « Walrus », le nom du navire de Flint. Tout était parfaitement clair. La cachette avait été découverte et pillée, les 700 000 livres avaient disparu.
L'île au trésor, édition Tristram. Alors, il n'y a plus de trésor, Dany Laferrière. Il a été piqué par d'autres pirates.
700 000 livres de pizza.
Ça, on fait de la pizza. Mais le roman n'est pas terminé et on a fait le choix de ne pas déflorer l'ultime dénouement du livre. Le trésor, à la fin, finalement, semble n'avoir été qu'un prétexte pour prendre le large.
Oui, ben, on est parti sur le bateau. Il y a eu un mort dès le début, il y a des méchants, il y a des bons, il y a des retournements, il y a une carte et un trésor, mais c'est magnifique. Les Odyssées de leur grand Besançon, c'est magnifique, ça me rappelle une histoire avec mes enfants.
Ah, et quand j'étais,
oui, parce que je leur disais toujours quand elles étaient petites, mes trois filles, que je connaissais tout le monde, le principe. Oui, par exemple, Marc Paul. Enfin, on appelle Marco Polo.
Un ami
à vous. Paul était un ami personnel. Okay. Il est allé en Chine. Je suis allé. Naturellement, je lisais toute l'histoire. Je racontais. Et je racontais pour n'importe quel sujet. Calamity Jane, c'était une copine de classe. Et puis, elle ne s'appelait pas Calamity Jane à l'époque. Elle était Tranquilo Jane. Donc, elle était...
Tranquilo Jane.
Les gens... Socrate, c'était un gars qui... J'allais chez sa sœur tout le temps. Marie-Thérèse, qui était la sœur de Socrate, qui faisait un barbecue magnifique en banlieue d'Athènes. Et son frère était plutôt intellectuel. Et puis, il nous racontait des histoires. Et on peut tout raconter. Et je racontais la maïotie, tout ça. Et elles sont devenues grandes. Et puis un jour, je reçois un petit mot de ma fille aînée qui m'a dit « Est-ce que tu connais bien Camus ? Parce qu'il y a ce livre « L'étranger ». C'est ça, je lui ai écrit. Camus était un ami personnel.
Alors, en 1878, Stevenson, l'auteur de L'île au trésor, est parti en voyage avec une ânesse dans les Cévennes. Ça a donné un roman très célèbre. L'ânesse s'appelait Modestine, on le précise. Voyage en Cévennes avec un âne, c'est le titre du livre. Et je trouve que cette randonnée mériterait un épisode des Odyssées, leur grand Besançon.
Tout à fait, Dorothée. Et je pense que ça fera peut-être partie des prochaines Odyssées. Oui, c'est
comment
une très bonne idée.
Comment choisissez-vous vos histoires?
De plein de manières différentes. Il y a parfois des enfants parfois qui m'écrivent et qui me disent « Ah, j'ai trop envie de découvrir ça. Et pourquoi vous écrivez pas telle Odyssée ?» Et donc, par exemple, là, cet été, on va sortir une Odyssée sur les évadés d'Alcatraz. Et c'est des enfants qui m'ont écrit en disant « Mais oui !» Et je me dis « Mais évidemment, c'est génial, les évadés d'Alcatraz. »
Ce sont les enfants qui font la programmation.
Voilà,
allez-y,
de temps en temps.
Courriel.
Mais sinon, je farfouille, j'ai des souvenirs aussi d'enfance. Et puis j'ai surtout, en fait, des appétits d'écriture, en fait. Quand j'essaie de regarder un peu ce qui me donne envie vraiment de me plonger et comment je vais raconter une histoire. Et quand je vois des scènes apparaître en disant « Ah, ça, c'est super !» Ou sur aussi des sujets que j'ai jamais écrits. Ça, c'est vraiment frissonnant parce que, par exemple, les évadés d'Alcatraz, j'avais jamais fait une évasion de prison et c'était vraiment succulent à écrire.
Vous avez vu comment elle le raconte ? J'avais jamais fait une évasion de prison.
C'est ça qui charme les enfants parce qu'elle y va. Le mot qui la représente très bien, c'est le mot appétit, elle l'a dit tout à l'heure. Elle a un appétit de vivre irrésistible. On y va avec elle. Elle est trop excitée, maman. Maman.
Alors, on va écouter un extrait de votre podcast pour les inconscients qui ne connaîtraient pas encore les Odyssées. Voici l'épisode, j'adore cet épisode, consacré à Alice Guy. C'est une femme injustement méconnue qui a pourtant marqué l'histoire du cinéma.
Alice vit à Paris au tout début des années 1900. Elle brûle d'un feu ardent. Ce feu ardent porte un nom. Le cinéma. Première réalisatrice de l'histoire, première scénariste, productrice et directrice de studio. Bien avant Hollywood, bien avant Charlie Chaplin et son petit chapeau pastèque. Melon, elle a fait le cinéma. Western, mélodrame, comédie. Elle essaie tous les genres. Ses acteurs, elle leur demande de faire eux-mêmes leur cascade. Et lorsque le scénario l'exige, elle n'hésite pas à faire exploser de vrais bateaux. Bien sûr, tout n'a pas été rose. Elle s'en est pris des murs et quelques bons coups de pelle en pleine poire. Mais tu sais quoi? Chaque fois, elle s'est relevée. Alice Guy est une casse-cou, une femme d'affaires, une immense artiste. Elle est en avance sur son temps et sur le monde. Es-tu prêt? Nous embarquons pour une folle aventure au cœur de la magie du cinéma. Attention, silence sur le plateau, moteur demandé. L'incroyable odyssée d'Alice Guy, scène 1, prise 1, caméra en place. Ça tourne!
Extrait du podcast Les Odyssées qui comptabilise, oh presque rien, 13 millions d'écoutes. C'est de la bande dessinée sonore, leur grand Besançon.
De la bande dessinée sonore ou en tout cas une sorte de cinéma pour les oreilles, de spectacle pour les oreilles, parce qu'on voit énormément de choses à travers le... De toute façon, l'invisible, le visible, le voir et l'entendre, tout ça, ça correspond ensemble. Et du coup, c'est vrai qu'on, quand on a lancé le podcast, on avait vraiment envie de créer un bain sonore qui soit aussi fort qu'un film, en fait.
Les Odyssées sont devenues un bouquin et je trouve ça intéressant parce que quiconque a déjà fait écouter des aventures sonores aux enfants sait que ils veulent suivre. Ils veulent suivre l'histoire sur un livre quand ils écoutent des histoires. Donc désormais, il existe en papier livre. L'image est très importante en littérature jeunesse, on le sait bien, quand on a lu notamment Roald Dahl avec les magnifiques dessins de Quentin Blake. Et là, ce qui frappe dans votre livre, c'est que le dessin change à chaque histoire. Ce n'est pas le même dessinateur, la même dessinatrice à chaque fois.
C'est quand on a commencé à travailler sur le livre avec les éditions Radio France, c'était vraiment j'avais deux choses qui étaient vraiment très importantes. C'était un, qu'on fasse pas de livre thématique, mais qu'on garde vraiment comme ça ce foisonnement, qu'on aille à la fois avec Marco Polo, avec Pouilly, avec le Loch Ness, enfin qu'on voyage partout et que voilà, il y ait à boire et à manger. Et aussi, je voulais qu'il y ait un illustrateur différent pour chaque Odyssée, parce que c'est vraiment lié à un souvenir d'enfance. Et moi, je me souviens, les livres dont les illustrations ne plaisaient pas, je le lisais pas jamais, quoi. J'étais d'abord attirée par l'image, et après, je lisais les mots, quoi. Et pareil, pour garder un peu ce foisonnement et ce côté un peu mal au trésor, vraiment, je voulais qu'il y ait un illustrateur différent pour chaque Odyssée.
À propos de ce livre, d'ailleurs, les Odyssées, j'écoutais, j'étais à Petit Goave, un peu comme pour le livre de Stevenson, j'écoutais la fusée Apollo, et avec la même sensation que j'ai eue en lisant le texte dans le livre. La même urgence. Et je n'avais aucune image, on n'avait pas la fusée, on était en Haïti, mais j'étais là comme ça, sur la pointe des pieds ou sur la pointe de mes oreilles, à essayer de ne rater rien, pas le moindre mouvement, pas. Et avec des portraits de personnages comme Neil Armstrong, comme Buzz, comme. Et c'est extraordinaire. Moi je pense que c'est un livre magnifique et j'ai envie de l'envoyer en Haïti dans les bibliothèques pour les enfants. Parce que ça me rappelle vraiment la saveur de l'enfance.
À écouter sur la pointe des oreilles. On garde la formule, leur grand Besançon.
Magnifique formule.
Et on en envoie une caisse en Haïti.
Que j'utiliserai dans une odyssée peut-être un jour.
Ça dépend, est-ce que Danny vous l'offre?
Ce qui est bon appartient à tout le monde.
Bon, on recommande en tout cas L'île au trésor aux éditions Tristram, c'est la toute nouvelle traduction qui est sortie en 2018. Et puis Les Odyssées, les grandes aventures de l'histoire racontées aux enfants, Les Arènes France Inter. Quoi d'autre au rayon jeunesse de vos librairies? Eh bien, c'est Denis Chessou qui surveille les sorties et nous conseille chaque semaine ses livres coup de cœur. On l'écoute et on vous retrouve, Dany Laferrière, Laure Grand Besançon, dans quelques minutes. Bonjour Denis.
Dorothée Barbaz sur France Inter. L'atelier Montelou.
Eh oui, bonjour Dorothée, c'est bien l'actualité du livre pour enfants qui commence par « Dehors, dehors, dehors » signé Hubert Benkemoun et Bruno Pilorget aux éditions de La Rue du Monde à partir de 6 ans. Une mère qui craque parce que son enfant est à fond sur son écran, sa console, bref, son doudou, son bracelet électronique moderne, c'est un classique.
J'ai dit dehors, sors, va courir, grimpe aux arbres, prends ton vélo et ne reviens que pour le goûter.
Quand sa mère s'énervait aussi fort, Pablo savait qu'il ne fallait pas insister. Alors en boudant, en attrapant son vieux cerf-volant, il sortit.
Il trouvait cela moins excitant qu'un écran et une manette, mais quand même.
Alors que Pablo essayait de se désennuyer, à quelques kilomètres de là, près d'une montagne, un jeune aiglon prit son envol.
Je ne vais pas loin, maman, jusqu'au torrent pour me dégourdir mes ailes neuves. Je rentre pour le goûter, promis.
Il décide de voler beaucoup plus loin et vit un étrange pigeon qui volait maladroitement. Une proie idéale.
Et il fonce toute serre dehors sur le cerf-volant de Pablo.
Qui l'entraîne dans les airs. Car là, ce fut une lutte bien plus rude que celle du chevalier tout en pixels. Tellement plus incroyable. Et vite, ils ne furent plus ennemis, mais complices, chacun pilotant l'autre, emmêlé dans leur fil.
Alors qu'ils volent bas, soudain, un ours bondit pour attraper les pieds de Pablo. Agile, l'aiglon,
anagramme de l'aigle,
tira fort, le sauva.
Puis ils reprirent leur force, au bord d'une langue de neige glacée. Les deux devaient rentrer au nid, à la maison.
Je n'étais jamais allé aussi loin et aussi haut, avoue Alain. Je n'étais jamais allé aussi haut et aussi loin, répliqua l'autre.
L'aiglon ramena Pablo chez lui.
C'est le plus fabuleux des après-midi du monde.
On recommence demain?
D'accord.
Sa mère ne l'a pas félicité en découvrant l'état de ses vêtements, mais qu'importe. Une mère qui ose formuler son exaspération. Un cerf-volant à la jolie symbolique qui fait décoller du quotidien. Un aiglon qui sort pour la première fois de son nid, vivant lui aussi sa propre aventure, et avec rien de moralisateur.
Et vivre un truc bien plus fort et plus vertigineux que ce que renferme son écran.
Alors pas besoin de phrases sur les ravages de l'inactivité, juste une histoire, presque probable. C'est vivant, bien construit, écrit simplement, efficacement par Hubert Benkemoun et dessiné dans une facture classique quasiment naturaliste par Bruno Pilorget.
Et même le vent, en sifflant dehors, promit que lui aussi reviendrait jouer. Promis, juré.
Cet album est donc en résonance avec cet appel du dehors, de la nature, de l'inattendu qui nous a tant manqué, mais essentiellement, Il nous dit que rencontrer les autres, c'est la clé de notre socialisation. Dehors, 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 aux éditions de la Rue du Monde, c'est à partir de 6 ans. Sleep est signé Alex Cousseau et Yannick Coat aux éditions des Fourmis Rouges à partir de 3 ans. Ah, vous sentez, il y a comme un parfum de vacances qui flotte dans l'air.
Sleep n'a qu'une envie, se baigner.
Sleep est un kangourou, mais il est un peu contrarié.
Il lui manque un truc. Quoi, de la crème solaire, ses lunettes de soleil, une serviette?
Polo le lézard a bien vu que quelque chose tracassait son ami.
Hey Sleep, tu cherches quoi? Un pistolet à eau, une pelle et un seau, un râteau?
Non, c'est pas ça. Cravate l'opossum et Papillon le pingouin arrivent à la rescousse pour résoudre le problème du kangourou.
On peut t'aider? Tu cherches quoi exactement? Une planche de surf, des raquettes, un ballon?
Mais Pyjama le grizzly a une idée.
Pas de panique, il n'y a pas de problème sans solution.
Et le voilà qui prend Sleep pour le secouer la tête à l'envers.
Sa poche entière se vide sur le sable. Un biberon, un cactus, du papier toilette, un kilo de cerises, une épée.
Son déguisement de chevalier, des livres, une brosse à dents, trois citrons.
Du fromage, des pinceaux, des crayons, son voisin caméléon.
Et c'est loin d'être fini jusqu'à ce que...
Stop!
Sleep vient enfin de trouver ce qu'il cherchait pour pouvoir se baigner. Mais pas sûr que ça se porte sur la tête, hein. Alors le duo Alex Cousseau et Yannick Coat est réuni dans ce livre pour les plus petits et ces derniers sauront se délecter de l'accumulation extrême, invraisemblable et pleine de surprises sur laquelle l'album est fondé. La forme habituelle du conte en randonnée se voit donc ici dotée d'une surenchère efficace pour un livre à l'humour franc.
Et comment sont les illustrations de Yannick Coat, Denis ?
Turbulente et invite volontiers à observer l'album Sleep et à se laisser emporter jusqu'à sa chute facétieuse. Donc un livre bien sûr parfaitement culotté aux éditions des Fourmis Rouges, c'est à partir de 3 ans. Merci à Jérôme Boulet pour sa réalisation, à Lucie Cosmala, Eric Oswald, Denis Chessou. Nous vous souhaitons de belles lectures et de belles odeurs, Dorothée.
Merci beaucoup Denis Chessou. Toutes les références des livres cités sont à la page de Barbatruc sur le site de France Inter. Et en effet, on va parler d'odeurs à présent. Dany Laferrière, Laure Grand Besançon, je vous soumets la question rituelle de cette émission. Quelle est l'odeur de votre enfance ? Dany Laferrière. Voilà, on la connaît
café.
Déjà la réponse quand on vous a lu.
C'est... Oui, je revois à l'instant même et ma grand-mère assise, et elle qui croyait que le paradis était une immense cafetière et qu'elle passait son temps à l'intérieur. C'est vrai que le paradis, c'est magnifique puisqu'il y a la petite fumée qui sort au bout, qui donne l'impression de mille et une nuits et de toutes ces histoires de génie. Et il y a le café noir qui sera plus tard le lang pour moi, qui deviendra écrivain. Et je deviendrai écrivain. Et donc, on avait les deux destins côte à côte. Et moi, assis par terre, qui écoutais tout ce que disait ma grand-mère quand elle se conversait avec les gens qui passaient dans la rue et qui notait ça dans ma tête pour plus tard faire des livres. Et elle qui vivait dans l'instant présent de sa tasse de café.
Une odeur de café. Et vous, Laure Grand Besançon, quelle est l'odeur de votre enfance ?
Eh ben, il y en avait plusieurs, mais je crois que celle que je garde vraiment en moi le plus précieusement possible, c'est l'odeur de mon père. Quand on partait chez mes grands-parents en Franche-Comté, ma chambre était à côté de la sienne et moi je me réveillais très tôt le matin, comme ça avec mes petits pieds, comme ça, j'allais le voir, j'ouvrais la porte quoi, qui était très haute et je m'en souviens quoi, clic, j'ouvrais et là j'arrivais dans sa chambre et je grimpais sur son lit comme une montagne, c'était vraiment immense et hop, j'allais me jeter dans ses bras et je finissais ma nuit comme ça. Et après, bien sûr,
ça sentait le sommeil, non ?
Ça sentait le sommeil et puis surtout un jour je suis retournée et j'ai ouvert la porte, elle était plus si grande et le lit était plus si grand et je me suis dit, ça y est. J'ai grandi, mon enfance est derrière moi, quoi. Donc c'est tout cette question de proportion. Vraiment, cette porte, elle était mais hyper grande. Enfin, c'était
le café d'une grand-mère et l'odeur d'un papa le matin. Il est très familial, notre cocktail olfactif de la semaine. Un grand merci à tous les deux. Alors, ce très beau livre à mettre entre toutes les mains, il s'appelle Les Odyssées, les grandes aventures de l'histoire racontées aux enfants, coédition Les Arènes France Inter. Je recommande bien sûr le podcast. Moi, je connais des plus jeunes qui écoutent, mais normalement, c'est pour les 7-12 ans. Je connais aussi pas mal de plus vieux qui écoutent.
Oui, ça rassure un peu.
50 épisodes au total. Dany Laferrière, vos livres pour enfants sont disponibles aux éditions de La Bagnole. Éditeur québécois. Le dernier en date, c'est La Fête des Morts. On retrouve les références de vos nombreux romans sur le site de France Inter. Je cite Dans le désordre, Le charme des après-midi sans fin, L'odeur du café, évidemment, chez Ulma. Et puis L'autoportrait de Paris avec chat et L'exil vaut le voyage, des romans dessinés chez Grasset. Et je rappelle que vous dévoilerez demain matin, dans la matinale de Nicolas Demorand et Léa Salamé, le lauréat ou la lauréate du prix du Livre Inter 2021. Grand merci à tous les deux.
Merci infiniment.
Merci d'être venus nous voir. À bientôt sur France Inter. Et merci au public du festival Mot pour Mot. ici à la Villette, à Paris. La jauge était réduite, mais ce festival, en vrai, c'est un régal.